France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Un gouvernement de mission et de rassemblement. Voilà comment Emmanuel Macron a décrit hier sur Twitter l'équipe dont on devrait connaître la composition aujourd'hui. Le nouveau Premier ministre Jean Castex, nommé vendredi, a lui donné hier au journal du dimanche une interview dans laquelle il dit vouloir aller vite. Efficacité, opérationnalité, solutions pratiques, méthode, voici les mots qu'il emploie. S'agissant de méthode, la sienne, dit-il, passe par le dialogue, la mobilisation de tous, l'obsession de la mise en œuvre concrète de ce sur quoi l'exécutif s'est engagé. Bonjour Nicolas Rousselier.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur France Culture dans les matins d'été. Vous êtes historien, vous enseignez l'histoire politique à Sciences Po et à l'École Polytechnique et vous êtes l'auteur notamment de La force de gouverner, le pouvoir exécutif en France, 19e-21e siècle, livre de référence, publié en 2015 dans la collection NRF&C des éditions Gallimard. Nicolas Rousselier, depuis vendredi, on lit beaucoup d'analyses nous expliquant qu'en choisissant Jean Castex, Emmanuel Macron prend le pouvoir sur Matignon, efface pour de bon la fonction de Premier ministre. Êtes-vous d'accord avec ça ?
Non, je ne suis pas d'accord, en fait, pour commencer par dire quelque chose de très net. Je ne suis pas d'accord avec l'idée du collaborateur, parce que si on dit ça, c'est qu'on en reste à l'image. Il est clair que, du point de vue médiatique, du point de vue de l'occupation des médias, le président de la République a toujours plusieurs métros d'avance sur le Premier ministre. C'est d'ailleurs la ressource même du pouvoir présidentiel. Il n'est pas tellement dans la Constitution, il est surtout dans le fait de pouvoir imprimer le tempo, et on l'a vu, imprimer le tempo, c'est changer un Premier ministre quand le président le souhaite, le prépare, le décide. Donc, si vous voulez, du point de vue de la stratégie, il est évident que le président est premier. Mais vous avez une sorte d'asymétrie cachée, c'est-à-dire un différentiel que l'on voit moins, que l'on voit en fait quand on se plonge dans la mécanique, quand on s'en plonge dans la boîte noire du gouvernement, c'est-à-dire la fabrication des arrêtés, la fabrication des décrets, le fait de piloter les ministres, de faire de l'interministériel. Et ça, c'est Matignon. C'est Matignon. Et donc, la personne qui se trouve à la tête de Matignon, de toute façon, il est en quelque sorte chargé de ne pas faire remonter trop de choses à l'Élysée. C'est-à-dire que si on fait remonter trop de choses de Matignon à l'Élysée, il y a engorgement de l'Élysée. Donc en réalité, il vaut mieux engorger, si je puis dire, Matignon. Et on sait que le poste de Premier ministre est complètement crevant et que les gens sortent totalement lessivés de Matignon.
C'est l'enfer de Matignon.
C'est, exactement. c'est une expression tout à fait exacte. Et la raison, c'est tout simplement parce que le travail quotidien, le travail d'essayer autant que faire se peut, et c'est de plus en plus difficile, on va peut-être en parler, c'est-à-dire le travail qui consiste à tenir en main l'ensemble de l'administration, et l'administration est en pleine mutation depuis une quinzaine d'années, et donc finalement elle est de plus en plus difficile à gérer depuis un hub, depuis un centre, que normalement doit être Matignon. Donc le métier en réalité de Premier ministre est de plus en plus difficile, le périmètre est de plus en plus élargi, et c'est pas un collaborateur. Le collaborateur du président, c'est au fond le secrétaire général de l'Élysée, le staff très proche du président de la République. Là, on peut parler évidemment de collaborateurs. Je veux dire, c'est ceux qui aident le président à écrire des discours, c'est ceux qui peuvent discuter avec le président de la stratégie internationale européenne. Là, on a un staff à l'Élysée, mais et un staff de collaborateurs.
Et donc finalement, le profil de Jean Castex, haut fonctionnaire, ancien conseiller Nicolas Sarkozy, jamais ministre, mais habitué des cabinets ministériels, maire de Prades aussi dans les Pyrénées-Orientales, 6000 habitants, finalement ce profil-là ne change rien à l'affaire.
Non, le fait qu'il n'ait pas été ministre n'est pas très important parce que quand vous êtes directeur de cabinet, donc l'homme ou la femme qui vraiment organise le travail du ministre, c'est au fond plus important parce que c'est la personne qui va vraiment être au cœur de la machinerie administrative. Un ministre pouvant être plutôt l'homme ou la femme de l'aspect rhétorique du travail d'un ministre. Donc, il a une expérience gouvernementale, il a l'expérience de cette machinerie du gouvernement qui est très complexe, ça c'est le point principal. Moi, ce que je trouve et qu'on n'a pas suffisamment souligné depuis 3 jours ou 2 jours, c'est que la nomination de Jean Castex indique surtout le fait que les filières traditionnelles se sont asséchées. Je veux dire, les filières, c'était la façon dont on recrute un Premier ministre. Historiquement, évidemment, ce sont les partis politiques, normalement, qui sont les viviers. Or, où sont les partis politiques aujourd'hui? On se demande. Donc, il n'y a pas de possibilité, semble-t-il, de recruter un poids lourd du côté de La République En Marche.
Ça, c'est ce que l'on dit déjà depuis 2017.
Oui, La République En Marche, ça ne prend pas. Là. Le ciment ne prend pas, aussi bien j'ai l'impression du point de vue de l'homogénéité de ce pseudo-parti. Et ça ne prend pas, là, en termes, si vous voulez, de recrutement. La République En Marche n'a pas fait sortir des têtes, n'a pas fait émerger comme ça des personnalités, en tout cas, pas suffisamment pour en choisir le Premier ministre. L'autre filière de recrutement que l'on voit poindre, notamment dans les élections municipales, et ça c'est un phénomène peut-être de renouvellement démocratique, c'est la filière de recrutement qui vient d'associations locales, on peut penser au Printemps marseillais par exemple. Mmh. Mais cette filière de recrutement semble pour le moment servir les élections et la politique locale. Est-ce que on peut imaginer pour la prochaine élection présidentielle un candidat qui sortirait de ce magma? Hein, cette chose qui est encore un peu gazeuse, il faudra voir. Mais pour le moment, on a plutôt une diffraction entre deux types de vie politique. Et ça, c'est un point très, très, très intéressant du point de vue historique. La vie politique n'est plus homogène, si vous voulez. On a des recrutements de plus en plus locaux, peut-être avec un renouvellement de la société civile, comme à Marseille. Et puis, on a finalement un recrutement, un auto-recrutement de l'État sur l'État. Mm. Et là, moi, ce qui me frappe avec Jean Castex, c'est au fond, pour faire image, on peut dire que c'est l'État qui prend le gouvernement. Il n'y a plus la possibilité de recruter un gouvernement dans le politique. Le politique, c'est par exemple aussi des grands parlementaires. Mm. Bon, là, je remonte un peu en arrière, comme je suis historien, mais c'est vrai que le recrutement de la 3e, la 4e et une partie de la 5e République... Pensez au Premier ministre Chaban-Delmas, qui s'est fait ensuite virer par Pompidou parce qu'il était trop populaire. Ça fait penser à quelqu'un d'il y a 3 jours. Bon, Chaban-Delmas était encore effectivement le grand parlementaire qui a été recruté comme Premier ministre. Donc là, il y a une interrogation, c'est en quoi la politique, le politique, c'est-à-dire des carrières politiques qui passent pas seulement par des fonctions administratives de directeur de cabinet, mais qui passent aussi par la rhétorique, la capacité à, si possible, faire un discours un peu porteur, qui enflamme un peu, eh bien le politique est en panne dans sa capacité à, pour faire anglicisme, délivrer des têtes.
On va en parler, ça, justement, du politique, de la rhétorique. Une question encore tout de même. On lit beaucoup, vous parliez des directeurs de cabinet, on lit beaucoup que le choix de Nicolas Revel comme directeur de cabinet de Jean Castex, c'est aussi pour Emmanuel Macron un moyen de garder le contrôle, de s'assurer qu'il n'y aura pas de résistance à Matignon. Est-ce le bon fonctionnement des choses? Et qu'est-ce que ça dit aussi du poids, du rôle des directeurs de cabinet, précisément?
Oui, alors c'est vrai que quand on examine la relation entre l'Élysée et Matignon, c'est-à-dire les deux maisons de l'exécutif en France, les spécialistes font toujours attention à la nomination du staff et des personnes qui entourent le nouveau Premier ministre. Et on a raison de le faire parce que dans justement cette machinerie de plus en plus complexe, qui souvent dysfonctionne, on l'a vu pendant le Covid ou avant le Covid avec l'histoire des masques, on en parlera peut-être tout à l'heure, on fait bien attention aux chevilles ouvrières, au fond. Et là, on a raison de voir que Nicolas Revel, le fils de Jean-François Revel et Claude Sarraute, plus aussi le chef de cabinet qui vient aussi de l'Élysée. Donc ce sont effectivement les hommes de l'Élysée. Mais je pense pas qu'il faille surinterpréter cet aspect-là. Parce que, d'une certaine manière, Jean Castex vient aussi du même milieu, d'un milieu qui circule entre l'Élysée et Matignon. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'Élysée aura la main au quotidien. Il faut bien voir les choses de manière extrêmement concrète. Le nombre de personnes qui travaillent à Matignon, par exemple, pour le travail quotidien de la locomotive gouvernementale, est plus important qu'à l'Élysée. On en a eu quelques images. Je ne sais pas si les auditeurs ont vu ces images à la télévision de la passation de pouvoir dans la cour de Matignon.
Le départ d'Édouard Philippe, oui.
Oui, d'Édouard Philippe et Jean Castex, on voyait dans la cour tout le personnel.
Énormément de monde.
Voilà. Oui. Voilà. Donc, qui applaudissait, hein, d'ailleurs, Édouard Philippe, mais énormément de monde. Donc, ça donne une bonne image de cette puissance, de cette ruche. Voilà. Celui-là, Matignon est une ruche. L'Élysée, c'est plus un tableau de bord où on a, au fond, un stratège ou quelqu'un qui essaye d'être un stratège avec des cartes et des plans. Pour mener la guerre contre le Covid et maintenant pour mener la guerre contre les conséquences économiques et sociales du Covid.
Alors, d'après les informations qu'on a ce matin, ça peut changer, on sait que ça peut changer ce genre de choses, mais Emmanuel Macron prendra la parole le 14 juillet, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent, et ensuite, seulement quelques jours plus tard, Jean Castex prononcera son discours de politique générale. Cela va dans le sens, évidemment, d'un président qui s'affirme comme le seul vrai chef. Ça veut dire aussi, quoi, que pendant une semaine, on va avoir un gouvernement dont on ne connaîtra pas la politique ?
Si, en fait, on connaîtra la politique du gouvernement par le discours du président. Mais là, c'est pas vraiment une surprise, c'est pas vraiment nouveau. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a, si vous voulez, une marche que l'on descend un peu plus dans la problématique du Parlement, c'est-à-dire la place, la raison d'être. Il faut poser la question, la raison d'être même du Parlement. Effectivement, le fait de faire le discours devant l'Assemblée nationale une semaine après, ça fera un peu réchauffer. Ceci dit, il y a quelque chose... À quoi il faut faire attention ? Parce que Jean Castex ne vient pas des rangs de La République En Marche. Mmh. Il n'était pas l'un des députés de La République En Marche. Donc, comme je le disais, ça signale l'échec de La République En Marche. Mais plus globalement, l'échec du Parlement comme institution. Finalement, à quoi sert un Parlement si on ne peut pas prendre parmi les siens le Premier ministre ? C'est-à-dire que là, le Parlement français, ça n'est pas le Reichstag allemand, ça n'est surtout pas le Parlement anglais. Donc là, il y a vraiment une spécificité française dans le recrutement. Mais une chose à quoi il faudra faire attention, c'est au fond, est-ce que à un moment donné, les députés lambda, je dirais, les députés lambda de La République En Marche vont continuer à accepter le sort qui leur est fait. Donc pour le moment, ça tient. Il y a eu quelques départs.
Il y a eu des départs récemment, oui, justement. Oui.
Certes, mais il ne faut pas non
ça
plus.
Ça ne change pas pour l'instant. Là,
non, ça ne change pas fondamentalement. Mais tout de même, à un moment donné. Ce qui est, à mon avis, le vrai ressort de la Ve République, et qui tient encore, qui fait qu'on ne peut pas pronostiquer une crise finale de la Ve, c'est qu'il y a la discipline de majorité, hein, le fait majoritaire qui est apparu dans les années 1960 et qui existe depuis lors. Et le fait majoritaire, il existe, il s'est même renforcé du fait que l'élection législative, l'élection des députés, comme vous le savez, c'est la confirmation de l'élection présidentielle. Donc, beaucoup de députés En Marche se sont fait élire sur l'affiche avec le portrait de du président Macron. Donc là, voilà, là, il y a quelque chose il faut faire très attention, mais pour le moment, ça tient.
Voilà. Et justement, Jean Castex, qui devrait recevoir, nous dit-on, les députés sénateurs de la majorité ce soir, n'est pas encarté effectivement à La République En Marche, il ne vient pas de là, mais il disait hier dans le journal du dimanche qu'il lui semble naturel de devenir le chef de la majorité, que c'est la vocation du Premier ministre, là où Édouard Philippe, on le sait, n'était justement pas très à l'aise avec ce rôle-là, ne l'a pas vraiment tenu.
Oui, je pense que c'est un diagnostic en quelque sorte que Jean Castex fait sur un aspect négatif du bilan d'Édouard Philippe, à savoir qu'Édouard Philippe n'a pas voulu endosser, parce que apparemment il n'aime pas, si vous voulez, les partis politiques, et donc un rôle que n'a pas voulu endosser ou pas suffisamment Édouard Philippe. Ce rôle de chef de la majorité, c'est pas le Premier ministre, c'est le président de la République qui l'est réellement aux yeux des Français. C'est bien au président de la République qu'on va demander des comptes au moment de l'élection présidentielle. Mais là encore, quand on regarde le quotidien de la politique, vous voyez bien à l'Assemblée nationale que, et c'est le Premier ministre qui est physiquement là, c'est le Premier ministre qui répond aux questions au gouvernement.
Qui rend des comptes.
Qui rend des comptes au quotidien. Alors, ça n'imprime pas trop les Français parce que c'est le jeu parlementaire et malheureusement qui est de plus en plus restreint. C'est vrai que, à mon avis, la modalité, la technique même des questions au gouvernement comme on le fait en France est un peu trop succinct, trop rapide, un peu trop caricatural. Le contraste est important là encore avec l'équivalent anglais. Bon, mais passons. Là, ce que Jean Castex va essayer de faire, c'est effectivement ce job qui se fait presque chaque semaine quand il y a une session parlementaire, qui est d'être physiquement là. Donc, On est un peu dans un jeu de rôle aussi, un jeu d'ombre, parce que le chef de la majorité, il doit, si vous voulez, rassurer, rassembler les troupes dans l'Assemblée. Mais les grandes orientations, évidemment, sont prises à l'Élysée. Il y a pas d'autre pays qui a cette ambiguïté. On le sait, c'est une ambiguïté constitutionnelle. Alors on explique ça aux étudiants, c'est toujours un casse-tête, et on n'y arrive jamais totalement parce qu'on doit dire aux étudiants, on est dans un régime parlementaire. Bon, c'est vrai qu'à tout moment, pourquoi pas, le Premier ministre pourrait faire face à un vote de défiance. Mm-hmm. Donc, on retourne à la Troisième République où le Premier ministre serait obligé de démissionner. Mais en même temps, on est évidemment dans un régime présidentialisé et encore plus depuis 2000, depuis le quinquennat. La République quinquennale, c'est une présidentialisation accrue du régime. Mais cette présidentialisation accrue ne veut pas dire l'élimination du Premier ministre. Parce qu'au fond, moi, mon idée, c'est que Le job global de l'exécutif est devenu tellement complexe et de plus en plus large. Et surtout maintenant, la chose nouvelle, c'est que l'exécutif au sommet a de plus en plus de problèmes à embrayer sur l'administratif. On le voit avec l'affaire des masques, par exemple. Je parle des masques avant le Covid. Hein. J'ai un peu regardé ça et c'est vrai que cette politique de 10 ans, où en fait on a éliminé les stocks, où on a gardé des stocks, mais certains des stocks étaient périmés. Et là, on voit que le sommet... Voilà, n'embraye plus sur, si vous voulez, le contrôle du service après-vente. On peut faire des lois, on peut faire des orientations au sommet, mais il n'y a plus le contrôle. D'où le fait que le mot clé, qui est prononcé 3 fois, 4 fois par Jean Castex, et qui est un mot clé aussi du vocabulaire d'Emmanuel Macron, c'est opérationnalité. Le caractère opérationnel du pouvoir, c'est un terme qui vient du militaire. Et l'idée, alors c'est peut-être une utopie d'ailleurs, parce que le politique ne fonctionne pas exactement comme le militaire, mais l'idée, c'est d'avoir une chaîne de commandement administratif qui serait, si vous voulez, de la même qualité que la chaîne de commandement strictement militaire qui existe depuis la Ve République, qui relie le président de la République au chef d'état-major des armées, en passant par le ministre des armées. Et ce modèle d'une chaîne de commandement, c'est quoi? C'est que vous avez la possibilité, depuis l'Élysée, en passant par le sommet de l'armée, d'aller effectivement contrôler le caractère appliqué, le fait que des décisions du sommet sont réellement appliquées à la base. Alors ça, c'est toute une histoire.
Et c'est très présent, donc effectivement, dans le discours, en tout cas dans les premières prises de parole ou entretiens de Jean Castex, opérationnalité, efficacité aussi, j'en parlais, c'est le mot qu'on a choisi pour titrer cet entretien avec vous. Il n'est pas nouveau ce mot efficacité. En octobre 2017, le sociologue Albert Augien avait écrit dans Libération une chronique intitulée « L'efficacité n'est pas un programme politique ». Il expliquait que cela renvoie à une vision très gestionnaire des choses. Ça a été reproché à Emmanuel Macron depuis le début, finalement, cette politique gestionnaire. Et Jean Castex, de ce point de vue-là, c'est l'homme du plan de déconfinement, donc qui a géré, plutôt bien, disent beaucoup, mais qui a géré, ça ne veut pas forcément dire mener une politique. Alors justement, encore une fois, vous qui avez le recul de l'historien, ce discours de l'efficacité, est-ce qu'il est nouveau et surtout, est-ce qu'il est chargé politiquement ?
Oui, il est chargé politiquement, oui, il est assez nouveau. Enfin, ceci dit, à toute époque, on a parlé d'efficacité du gouvernement. Mais là, on ne parle que de ça.
Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'un gouvernement efficace, ça paraît logique qu'on attende d'un gouvernement qui soit efficace.
On n'a pas demandé au gouvernement d'être inefficace, sauf si on est vraiment un anarchiste libertaire digne de ce nom, si je puis dire. Donc un gouvernement efficace, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, je crois, alors c'est le fait de, si vous voulez, subsumer la notion d'efficacité par la notion d'opérationnalité. Donc d'avoir un modèle d'efficacité, voilà, de type politico-militaire. Ça, c'est très, très frappant. Et moi, il me semble que le diagnostic que fait l'exécutif actuellement, le président de la République notamment, c'est que ce qui est en jeu dans les mois qui viennent, c'est rien moins que le régalien. Oui. Je m'explique, c'est-à-dire, on a vu que depuis 15 ou 20 ans, voire plus, les politiques gouvernementales n'étaient pas efficaces, par exemple, pour la réduction du chômage, enfin tous les problèmes, si vous voulez, sociaux de notre pays. Donc ça, on fait le deuil, en quelque sorte, de la politique et de sa capacité à changer une donne sociale. Mais là, on n'en est plus là. On en est à devoir maintenant sauver l'État, en quelque sorte. Sauver le régalien, le remettre en état de marche. Donc le slogan « En marche » de 2017, c'était pour remettre en marche l'économie, la société française, la croissance. Et là, je pense qu'on en est arrivé. Il faut remettre en marche le régalien lui-même dans des mois qui s'annoncent. Alors, on va prendre des vacances. J'espère que vous en prendrez vous aussi. On va un peu tous prendre des vacances. Ah ben non, vous êtes dans la grille d'été.
Oui, voilà,
oui, pardon.
Je pense que je vais pas en prendre tout de suite.
Oui, pardon. Oui, c'est ça. Vous êtes... Bon, moi, peut-être pas non plus, d'ailleurs. Non. Donc là, on a deux mois de vacances. Mais à partir de septembre, on va aller dans des mois où ce qui est en jeu, voilà, c'est tout simplement la capacité, si vous voulez, primaire. Hein, là, on n'est plus dans les effets secondaires de la politique qui peuvent changer la donne sociale. On est dans la politique primaire.
Et ça va avec l'ordre républicain, la sécurité publique, tout ce qui a été déjà dit depuis quelques jours, affirmé comme priorité pour les mois à venir. Nicolas Rousseli, on continue à en parler avec vous un peu après 8h15. Nicolas Rousseli, historien du politique, auteur notamment de La force de gouverner, sorti en 2015, publié dans la collection NRF, essai des éditions Gallimard.
France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Et nous sommes ce matin avec l'historien Nicolas Rousseli. Vous enseignez l'histoire politique à Sciences Po, à l'école polytechnique. Nous avons parlé avant 8h du Premier ministre Jean Castex. En attendant la composition du gouvernement aujourd'hui et de ce discours, dans ses premières prises de parole ou entretiens qui insistent beaucoup sur l'efficacité, les résultats. En même temps, les résultats que l'on vise, ils ont été fixés, ils correspondent à une vision. Donc, en réalité, il y a évidemment des choix politiques derrière. Et Stéphane en parlait, la réforme des retraites, c'est une vision politique, c'est un choix de société. On l'a bien vu cet hiver. Et le fait de la remettre à l'agenda, évidemment, c'est une décision, pour le coup, très politique.
Oui, absolument. C'est-à-dire que tout laisserait à penser les déclarations des syndicalistes, y compris le patronat, qu'il faudrait mettre sur pause, comme Geoffroy de Bézieux l'a dit. Donc tout laisserait à penser ça, mais je crois que là, ce qui est en jeu, et Stéphane Robert l'a très bien dit, c'est la capacité politique, au sens le plus fort du mot, du président de la République. Et là, on retrouve le rôle du président par rapport au Premier ministre. C'est-à-dire que le Premier ministre, il va être le gestionnaire, si vous voulez, de la crise économique pendant les mois qui viennent. Et là, ce qui est en jeu, c'est la capacité, si vous voulez, à ne pas se contenter d'être une sorte de garde-barrière des plans sociaux dans les mois qui viennent. Il faudra pas simplement compter les morts et compter les gens mis au chômage. Sinon, le politique s'enfermerait dans ce rôle délétère. Et il abandonnerait cette capacité. Capacité qui sera peut-être pas du tout réussie, ça, c'est le risque. Mais sinon, on enferme la capacité du politique dans un long tunnel de plans sociaux. Donc, la politique, c'est les circonstances, mais pas subir les circonstances. Ça, c'est ce que je crois que Emmanuel Macron fait ce pari-là, d'essayer de, si vous voulez, de chevaucher la bête, de surmonter les circonstances. Je dis pas du tout que ce soit réussi à l'avance, et c'est pas sûr que même politiquement ce soit un bon pari, vu déjà les oppositions. Mais on connaît Emmanuel Macron depuis 2017, c'est la notion de transformation. Et là, s'il perd cette martingale, s'il perd le ressort de 2017, la capacité à transformer, il se retrouve tout nu. J'emploie le langage familier que M. Berger a aussi employé. Et il se retrouve tout nu à l'élection présidentielle. Parce que vous l'avez bien dit, Stéphane Robert, le bilan 2017-2019 sera oublié quasiment. Les signes n'étaient pas mauvais, mais c'était des signes débutants de baisse du chômage, certes, mais encore assez faibles. Donc, le peu de positif qu'il y avait dans le bilan sera quand même bien oublié, parce qu'au fond, même dans nos vies quotidiennes, ce qui se passait au mois de janvier, on a l'impression que c'est il y a des siècles. Donc ce sera la même chose en politique, il lui faut quelque chose d'autre. Il lui faut au moins montrer cette capacité, cette volonté. Voilà, on parlait de volonté.
Oui. Et vous disiez ici même sur France Culture au printemps, avec la pandémie, la projection dans le futur est en panne. Là, finalement, ce remaniement, c'est aussi un moyen de nouveau de se projeter dans le futur et de peut-être pas subir les choses comme vous le disiez à l'instant.
Oui, alors évidemment, ce qui est ironique, c'est que au fond, pour pouvoir se projeter dans le futur, ne pas subir les événements qui vont s'enchaîner avec les plans sociaux, il a en magasin finalement cette réforme des retraites. Il n'a peut-être que ça. Et c'est ça que le bât blesse peut-être ici, parce que c'est un dossier très compliqué déjà en soi, et surtout c'est un dossier explosif par rapport aux partenaires sociaux.
Oui, ça va pas vraiment avec la volonté de rassemblement, avec Jean Castex qui nous dit qu'il est un gaulliste social et que le gaullisme dépasse les clivages, sous-entendu on va pas faire de la politique politicienne, on va tous se mettre ensemble. D'ailleurs ça, est-ce que ça n'est pas aussi une façon de faire de l'unité nationale sans... Quand on sait qu'on ne va pas y arriver, finalement, on dit on dépasse les clivages, oui, et comme ça, vous ne pourrez pas être en désaccord avec moi, puisque...
Oui, on fait de la rhétorique. Bon, sauf que le président Macron a annoncé qu'il allait faire de la transformation dans la transformation. Il allait transformer la réforme de retraite telle qu'elle existait encore en janvier. Notamment, peut-être que l'âge pivot va sauter. Donc, il va dénoyauter ce qui faisait vraiment problème dans la réforme des retraites. Sauf que Laurent Berger a dit non en termes d'opportunité. Mais encore une fois, on peut se placer, si vous voulez, à la place du pouvoir. Il ne peut pas s'enfermer dans la négativité des mois qui vont venir. La négativité qui peut être vraiment cataclysmique avec les chiffres du chômage. Et vous avez raison de dire que le chômage n'aura pas énormément baissé en 2022. C'est-à-dire qu'on va aller à 11, peut-être 12% sur les mois qui viennent, sur l'année 2021. Voilà, on ne sera pas à 5% en 2022. Voilà. Donc, c'est une question, si vous voulez, pratiquement de vie ou de mort pour le macronisme. Le macronisme, voilà, comme son nom l'indique, c'était se mettre en mouvement, c'était prendre la manivelle et faire repartir le moteur de l'économie, etc. Donc, moi, je comprends. Il ne peut pas non plus se passer de ce qui a fait son succès de 2017. Mais maintenant, c'est vraiment, on croise les doigts. Hein, on croise les doigts.
Oui, la promesse était aussi la révolution, les grandes transformations. Là, on va adapter ce qui était déjà prévu et on va faire, ce qu'on peut. En tout cas, il a répété hier sur Twitter, Emmanuel Macron, que ses priorités, c'était relance de l'économie, poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l'environnement, rétablissement d'un ordre républicain. Vous insistiez là-dessus tout à l'heure, avant 8h, cette façon de réaffirmer aussi justement l'autorité de l'État. Est-ce que ça n'est pas un moyen, après la période que nous venons de vivre, où finalement on a passé des mois, des semaines, en tout cas, à dire on ne sait pas. Là, on dit de nouveau, on sait où on va, on affirme notre autorité. Est-ce que c'est aussi important de ce point de vue-là pour reprendre les choses en main?
Oui, c'est pas faux. Je crois que la période que nous avons vécue dans le Covid, c'était effectivement une période extrêmement bizarre pour le politique, puisque il naviguait à vue dans le brouillard. Moi, j'ai utilisé l'expression qui vient de Clausewitz, le brouillard de la guerre. Et c'était vraiment ça, mais c'était une purée de pois. C'est-à-dire que le gouvernement, qui normalement doit faire de la planification, de l'anticipation, là, il ne pouvait pas anticiper à quelques jours près, quasiment. Quand on était au mois de mars, au mois d'avril, sur les masques, sur les tests et sur les conséquences ou sur le nombre de morts. Donc là, d'une certaine manière, c'est un peu cynique ce que je vais dire, mais la crise économique, les plans sociaux, le chômage, ça s'anticipe, c'est-à-dire que dans l'aspect le plus dramatique, on a les chiffres. L'INSEE produit les chiffres sur, par exemple, 12% de chômage. Donc ça, d'une certaine manière, c'est horrible à dire, mais c'est une mécanique qui se met en place infernale, qui va occuper les prochains mois. Mais c'est pas le Covid. C'est une négativité certaine. Et c'est pour ça qu'il faut associer ça ou opposer à cela, réenclencher un peu de transformation. Je dirais que c'est une version minimale de la transformation, le nouveau projet de régime des retraites. Mais il faut absolument maintenir cet aspect-là du point de vue macronien, je veux dire. Hein, j'essaie d'analyser, je ne dis pas que j'approuve forcément.
On a beaucoup utilisé pendant cette période, Nicolas Rousselier, la comparaison, le vocabulaire de la guerre, en admettant que l'on soit sorti de la crise sanitaire, ce qui n'est pas acquis. Si on se dit que maintenant on est dans l'après-guerre, c'est aussi normalement justement des grandes transformations de la société. Là, finalement, on est plutôt dans une forme de retour aux fondamentaux. Donc, avec le recul, que pensez-vous au moment où on est aujourd'hui, de cette comparaison avec la guerre?
Disons, je pense que la comparaison avec la guerre au moment du Covid n'était pas forcément la bonne comparaison, pour plusieurs points de vue, parce qu'on était confiné au lieu d'aller dans les tranchées, sauf pour le personnel soignant. Il y avait pas de censure, il y avait encore un débat public, et Dieu merci, extrêmement important. En revanche, la comparaison avec la guerre, elle vient plutôt à partir du mois de septembre, avec ses plans sociaux et cette impression de décompte. Heureusement, ce ne sera pas non plus des morts, mais des décomptes de chômeurs qui va être terrible. Donc, si vous voulez, c'est ça la question. Mais Emmanuel Macron, il aime le politico-militaire. Je le disais au début de l'entretien, il aime la comparaison, comparer le politique au militaire. D'où, par exemple, la création du Conseil de défense écologique, sur le modèle du Conseil de défense et de sécurité. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un pôle à l'Élysée, et non pas à Matignon, un pôle qui doit effectivement chercher, en fait, à établir un plan opérationnel, comme un QG, comme un état-major. Voilà. Et je crois qu'Emmanuel Macron, qui n'est pas, qui fait pas partie de la génération des présidents qui ont fait la guerre ou qui ont fait le service militaire, il vient après la suppression du service militaire. Bah, curieusement, peut-être que c'est son mémoire sur Machiavel quand il était étudiant à Nanterre, d'autres lectures, mais je crois qu'il a ce référent politico-militaire.
Merci beaucoup, Nicolas Rousselier. On suivra donc ce remaniement aujourd'hui, a priori. La force de gouverner, le pouvoir exécutif en France, 19e-21e siècle. Votre livre sorti en 2015, publié dans la collection NRF Essai des éditions Gallimard. Je signale également à venir dans le numéro de septembre de la revue Études, un article que vous signez sur justement cette crise du Covid. L'État est-il fort? Est-il faible? À lire donc bientôt dans la revue Études. Il est 8h30.